VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Cameroun, 3 Nigériens et 1 Camerounais figurent parmi les 5 victimes tuées au cours d'une attaque contre une équipe de l'ONU à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. La nationalité de la cinquième victime, un contractuel indépendant de l'ONU, n'a pas été communiquée. L'attaque s'est produite mardi dans la région d'Osere-Djongbi, près de Concha, dans le nord du Cameroun. Et puis la RDC pleure Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, est décédé mercredi à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Il aura manqué de son empreinte la vie politique de son pays. L'UDPS, le parti de l'opposant historique, négocie avec les alliés du président Joseph Kabila un partage du pouvoir avant son brusque décès. Tout d'abord, un profil du disparu avec Nicolas Pineau.
Étienne Tshisekedi voit le jour à Luluabourg, dans ce qui est alors le Congo belge. Nous sommes le 14 décembre 1932. La ville s'appellera plus tard Kananga, dans le Kasaï. Celui qui sera le premier diplômé en droit du Congo soutient le coup d'État de Mobutu en septembre 1960. Il fait partie du collège des commissaires généraux mis en place pour éjecter le gouvernement de Patrice Lumumba. Dans les années 60, Tshisekedi sera plusieurs fois ministre sous Mobutu et va même jusqu'à soutenir la pendaison publique d'opposants. Tshisekedi et Mobutu encore fonde ensuite le mouvement populaire de la révolution dont Étienne Tshisekedi deviendra le premier secrétaire de ce parti uni. Ce n'est que 20 ans plus tard, en décembre 1980, qu'Étienne Tshisekedi devient opposant et dénonce le régime prédateur de Mobutu. En 1982, Tshisekedi crée l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, un parti qui réussit très vite à élargir son audience au-delà des Kassai. En 1990, Tshisekedi n'est plus assigné à résidence à Limété et l'UDPS peut enfin agir au grand jour. En août 92, au terme de la conférence nationale, Tshisekedi est même élu premier ministre de Mobutu, mais la cohabitation ne dure que 7 mois. En 1997, à la chute de Mobutu, Tshitshi pense son heure venue, mais le nouveau maître du Congo, Laurent Désiré Kabila, ne l'entend pas de cet avis. Il envoie le sphinx de Limété dans son Kassai natal. En juin 2006, Tshisekedi boycotte les premières élections pluralistes et dénonce la mainmise occidentale sur le scrutin. 5 ans plus tard, en 2011, face à un scrutin présidentiel à un tour, Joseph Kabila est donné gagnant de ce scrutin dont l'Union européenne dénoncera plus tard les fraudes et irrégularités. Tshisekedi, lui, ne reconnaîtra jamais ces résultats. La présidentielle de 2016 n'ayant pas eu lieu, la majorité et l'opposition ont signé un accord politique le 31 décembre dernier. Tshisekedi avait été désigné pour piloter le comité de suivi d'application de ces accords. Il n'en aura pas l'opportunité et la République démocratique du Congo plonge dans une grande période d'incertitude. Tshisekedi s'en va sans avoir vu la première transition pacifique de l'histoire politique du pays.
Merci Nicolas Pineau. Pour comprendre l'éventuel avenir de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi et la suite du processus politique en RDC, Eric Maniga-Kiza a joint à Bruxelles un consultant diplomatique, Henri Désiré Nzouzi.
L'avenir se décidera à l'aune de la capacité des uns et des autres de faire le deuil de la disparition d'Étienne Tshisekedi, mais surtout de pouvoir se dépasser dans l'intérêt bien compris d'un parti qui a vocation, bien évidemment, à survivre à son cofondateur.
Il n'avait pas encore pris sa retraite, il allait même jouer un rôle majeur dans la transition politique. Quel est l'avenir de la démocratie en RDC sans Tshisekedi?
Je pense que, ayant été d'une certaine manière à la manœuvre, mais aussi à l'origine, en tout cas, de l'éveil de conscience des Congolais pour justement l'apport démocratique dans ce pays, son héritage devrait être sans trop de difficultés perpétué. Je pense que les Congolais sont aujourd'hui suffisamment mûrs que pour pouvoir créer les conditions d'une consolidation de ce processus démocratique qui est encore jeune, qui vit parfois, je dirais, des moments difficiles, compte tenu du comportement de certains acteurs politiques, mais c'est inscrit aujourd'hui dans les mentalités, dans les consciences. Et donc, à ce niveau-là, je ne me fais pas beaucoup de soucis. Il faudra simplement veiller que ces héritiers politiques puissent perpétuer sa pensée, sa vision, afin précisément qu'elle puisse s'installer durablement. Mais aujourd'hui, les Congolais ont atteint cette maturité qui font qu'ils peuvent aujourd'hui se réapproprier un processus qui, d'une certaine manière, leur permettrait d'envisager des lendemains meilleurs.
Le vieux Tshitshi n'est plus, mais quelle est la suite maintenant du processus politique?
Il va falloir quand même respecter la période de deuil, donc je pense que des funérailles nationales lui seront consacré. Une fois cette ce moment de recueillement passé, il faudra effectivement revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la suite du processus. On sait qu'un accord a été signé, mais que malheureusement, il ne peut être exécuté ou mis en œuvre faute de signature de l'arrangement particulier. Et donc, il va falloir s'assurer que la disparition d'Étienne Tshisekedi ne remet pas en cause le respect des engagements qui ont été pris. Je pense néanmoins que au niveau de la présidence du comité de suivi, certaines ambitions vont s'exprimer, et je pense que c'est tout à fait légitime. S'agissant de la primature, là, je pense que là aussi le jeu restera davantage ouvert, mais on peut considérer aussi d'une certaine manière que compte tenu de la personnalité forte qu'incarnait Étienne Tshisekedi, certains pourraient être pensés, ou en tout cas pourraient être tentés de croire que les choses seront, disons, beaucoup moins compliquées. Et je pense que c'est un pari que je ne prendrai pas le risque de prendre, si je puis m'exprimer ainsi, car la politique congolaise est suffisamment aléatoire et pleine de surprises que pour ne pas tomber dans le piège de prédictions.
Henri-Désiré Nzouzi à Bruxelles. Idrissa Seydoudi a demandé à l'écrivain Fidèle Loumeya, un analyste basé ici aux États-Unis, comment il voyait le legs d'Étienne Tshisekedi et comment sa disparition allait affecter le paysage futur politique de la RDC.
Tshisekedi, pour rendre l'analyse plus simple, il faut le prendre comme le Michel Platini, les Zinedine Zidane, les Zico, les numéros 10, les milieux de terrain du football congolais. Le football ici représente la politique congolaise. Quand tu es à Kinshasa ou bien dans les grandes villes du Congo, la politique est représentée sous l'image du football. On parle du football politique. Si nous restons sur cette image congolaise, Tshisekedi était les milieux de terrain politique.
Alors, comment est-ce que la disparition de ce milieu de terrain politique va-t-elle affecter l'avenir politique du Congo, surtout dans le cadre actuel où il y a des tractations de toutes parts pour trouver une sortie de crise pour le bon?
À ce niveau ici, c'est justement, c'est comme un milieu de terrain très très actif qui joue sur la défensive et sur l'offensive, qui sort du terrain. Donc, karma, le jeu est déstabilisé. La situation politique à ce niveau ici est déstabilisée. Le rassemblement politique qui est représenté le président Tshisekedi doit se retrouver comme une équipe qui manque les milieux de terrain et qui ne sait pas comment se réorganiser très vite parce que ce sont les dernières minutes. Il y a un empressement. Donc il y a un vide qui se fait ressentir et ce vide-là n'est pas facile à combler.
Fidèle Loumeya, un analyste basé ici aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Coupe d'Afrique des Nations de football, Ghana-Cameroun, c'est l'affiche de la deuxième demi-finale de la CAN aujourd'hui au Gabon. Hier, lors de la première finale, l'Égypte, déjà sept fois vainqueur de la CAN, s'est qualifiée pour la finale de l'édition 2017 devant le Burkina Faso, 1-1 à la fin des 90 minutes réglementaires et 4-3 au tir au but. Compte rendu de Timothée Donangman, notre envoyé spécial à la CAN.
Les Pharaons ont misé sur l'expérience de leur gardien de but et capitaine Essam Kamal El Hadary, qui a repoussé les pénaltys de Kwaku Hervé Kofi et de Bertrand Traoré. Le coach Hector Cooper se dit satisfait de la qualification des siens, même si les Burkinabés ont mieux joué.
Burkina Faso était meilleur que nous.
Elle était même d'ailleurs meilleure que nous, surtout en deuxième mi-temps où elle a fait preuve de beaucoup d'agressivité. Quant à nous, nous avons éprouvé beaucoup de fatigue et le souhait c'était d'attendre l'épreuve des tirs au but parce que c'est une épreuve dans laquelle beaucoup de choses peuvent se passer.
Le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, a félicité les Égyptiens, mais estime que ces poulains auraient pu gagner la partie.
Mon attaquant va pour la surface, le défenseur coupe la balle avec la main, monsieur arbitre, c'est un grand arbitre, souffle la faute. Après 30 secondes, après l'insistance du auxiliaire, il donne pas un coup de carton. C'est pas normal qu'il y ait une passe, la loi dit, un passe entre un adversaire et autre. La balle est coupée avec la main, obligé, carton, pas de carton.
Le match pour la troisième place sera le plus difficile pour les étalons, a prévenu Paulo Duarte. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Les pharaons égyptiens retrouveront dimanche à Libreville en finale le vainqueur du match Ghana-Cameroun ce jeudi à Franceville.